Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Augustin, donc, avait cette sensation très présente, très puissante de ses besoins de séduction, de ses besoins charnels, voilà. Et pour se stabiliser un peu, il va se mettre en concubinage avec une jeune chrétienne, Mélanie. Il va se mettre en concubinage avec elle. À l'époque, c'était tout à fait, je veux dire, les chrétiens le faisaient couramment, c'était admis, quoi. Et voilà, il va comme ça essayer de se stabiliser, mais non, ça ne marche pas. Le besoin des aventures multiples est là, et vraiment ça le tarabuste. Vraiment, ça on voit que ça prend, ça a une importance très très grande, quoi. Et ainsi que le besoin d'une réussite professionnelle, dans une réussite professionnelle, en fait, il sera rhéteur. Et donc il est formé, si vous voulez, à la rhétorique, et comme il dit, le moyen de faire passer pour un droit ce qui est l'art des rusés. Et bon, ça ne le gêne pas outre mesure, même pas du tout, en fait, d'accumuler un petit peu les impostures pour vanter les mérites d'imposteurs à des gens qui savaient qu'il s'agissait d'impostures, mais qui allaient se congratuler ensemble parce qu'ils étaient du même monde. Et Augustin était donc vraiment pris dans ce filet de passion. Avec voilà ce besoin énorme d'aventure féminine renouvelée et renouvelée, quoi. Et un jour il va lire un livre de Cicéron qui va commencer qui va entamer, si vous voulez, ce chemin de conversion. Bon, qui va durer quand même plus de 15 ans, hein. Donc voilà. Mais voilà, il va lire ce livre de Cicéron, le Hortensius. Bon, il nous est resté non pas le livre, mais ce qu'en disaient certains auteurs à l'époque. Et donc dans ce Hortensius, Cicéron imagine un dialogue, entre quatre protagonistes. Alors, le dialogue, j'hésite un peu, parce que le dialogue, il y a dit un, deux, là, ils sont quatre, et imagine. Donc, cette conversation entre quatre protagonistes, où Cicéron se place lui-même. Et alors, l'un des protagonistes explique que la rhétorique, c'est l'art suprême, que rien ne le dépasse, et que tous les arts ont besoin, de toute façon, de la rhétorique, et donc la rhétorique est indispensable, et c'est à ce titre certainement que c'est l'art le plus élevé. Et Cicéron et les autres philosophes, chacun appartenant à une école différente, répond que non, ce qui compte, c'est la sagesse, c'est d'être un ami de la sagesse, hein, d'aimer la sagesse, hein, d'être un philosophe, hein, c'est ça. Et que c'est ça qui apporte le bonheur et la droiture. Mais voilà, ce livre-là va interroger fortement Augustin. Il va le lire, l'argumentation qui l'a séduit dans ce livre, ce sont les arguments. Normalement, il était séduit par l'argumentation. Il aimait voir comment on tournait les phrases, les mots, comment on jouait avec les idées et les concepts, comment on tournait ça pour donner raison à votre client. Là, ce sont les arguments qui l'ont interrogé. Et donc, ça a commencé chez lui à se poser des questions. Mais ces questions-là, elles restaient à l'état de questions qui pouvaient être en sommeil à certains moments. Ça n'avait pas de conséquences sur son comportement, sur son attitude dans la vie, quoi. Hein. Et c'est quelque chose qu'il va garder pendant des années, comme ça, d'avoir des questions, mais de ne pas sauter le pas. Alors, quand même, il s'interroge, et même s'il ne, voilà, même si pour la conversion, il va falloir attendre longtemps, et le chemin continue d'avancer. Et c'est comme cela, d'ailleurs, qu'il deviendra manichéen. Hein. Le manichéisme, c'est une doctrine imaginée par un peintre persan, Manès, hein, qui imaginait que voilà, Dieu s'était fendu le crâne et qu'il était sorti d'un côté le Dieu de la justice et de la bonté, hein, et de l'autre côté, eh bien, Satan, voilà, hein, le Dieu du mal. Voilà. Il imaginait ça, il avait assemblé comme ça des doctrines, un peu la Bible, un peu des doctrines bouddhiques, un peu des doctrines de zoroastriennes, un peu des doctrines plus ou moins ésotériques ou magiques. Il avait mélangé un peu tout ça, ce cher Manès, et il avait comme ça trouvé cette doctrine qui assurait le salut. Alors aux uns, les parfaits, parce qu'ils pratiquaient l'abstinence totale, et aux autres, les auditeurs, parce que parfois, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, et puis bon, voilà, il y a les deux forces en soi. Et c'est vrai qu'Augustin, ça lui allait bien, ça lui allait bien parce que ça expliquait ces deux tendances qui étaient en lui qu'il ne gérait pas. Et donc forcément, dans ces cas-là, c'est la tendance descendante, hein, la plus lourde qui entraîne, hein, c'est la tendance de l'inertie qui est la plus forte. Et alors ça inquiétait sa maman, mais avant de devenir manichéen, il a essayé de se tourner vers la Bible, mais lui il était habitué à lire des ouvrages dans un latin travaillé. La traduction de la Bible qu'il avait, c'était pas un très bon latin, et puis les arguments, et puis les idées de chasteté, de renoncement et tout ça, bon, enfin bon, il avait... Il s'était dit que bon, ça c'était pour les enfants, quoi, ça, voilà. Donc ça, il n'a pas été plus loin, et ça a duré 15 ans où il n'a pas rouvert la Bible, au grand désespoir de sa maman, qui ira voir un évêque et qui lui confiera sa peine, parce que son fils est devenu manichéen. Comme il a essayé de la convertir, elle l'a fichu dehors. Bon, il a été hébergé chez un ami. De toute façon, il avait les bonnes relations, il avait une bonne situation. Il entretenait seul cinq personnes. Hein. Il y avait Mélanie, il y a eu son fils, il y avait son frère, et il y avait un ami. Donc bon, voilà, il entretenait cinq personnes. Bon. Donc il avait les sous. Mais bon, elle l'a fichu dehors, et donc elle est allée voir l'évêque. Et en pleurs, parce qu'elle voyait son fils se perdre. Hein. Son fils, lui, se voyait réussir, mais bon, elle le voyait se perdre. Et l'évêque lui a demandé s'il y avait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire? Qu'est-ce qu'il pouvait faire? Voilà. L'évêque lui a dit d'aller en paix, que Dieu la bénisse, parce que de toute façon, il n'était pas possible que le fils de telle larme perde. Voilà, mais il y a un incident qui va jouer, voire un rôle décisif. Augustin va perdre l'un de ses meilleurs amis. C'était un ami qu'il avait qui voulait se convertir au christianisme. Augustin l'en avait dissuadé et l'avait emporté avec lui dans les discours et les délires manichéens. Et voilà que cet ami tombe gravement malade et demande le baptême. Alors bon, il se fait baptiser et Augustin se moque de lui et tout, et son ami lui dit d'arrêter parce que sinon il ne pourront plus se voir. Donc Augustin ne répond rien, en se disant que bon, il va attendre que son ami soit complètement rétabli pour continuer la discussion, mais voilà, son ami décède. Et alors Augustin, ça va le plonger dans un état je pense que c'était de quelque chose comme il y avait certainement une part de dépression là-dedans. Il y avait une grande interrogation aussi, parce que il voyait qu'il y avait une part de lui qu'il ne comprenait pas dans cet énorme chagrin, l'impact qu'avait eu en lui la perte de cet ami. Voilà, il y a quelque chose qu'il ne comprenait pas en lui. Et alors il s'était habitué, si vous voulez, avec en en étant manichéen, à considérer que, bon, voilà, si, malgré sa belle compréhension, parce que c'est quelqu'un qui, quand même, qui développait une compréhension, qui réfléchissait, malgré sa belle compréhension des choses, il continuait d'avoir une vie, somme toute, assez médiocre, quoi. Mais que ce n'était pas de sa faute, hein, c'était la faute de cette puissance ténébreuse qui est en nous, qui est en chacun d'entre nous, et la puissance lumière, la puissance des ténèbres, et puis voilà, et puis c'était pas de sa faute, c'était de la faute de cette puissance ténébreuse, voilà, qui agissait en lui. Mais là, il va commencer à se rendre compte, justement, que, en fait, c'est en soi-même. C'est en soi-même, c'est pas la question d'une puissance de lumière, d'une puissance ténébreuse qui existerait en elle-même, cette puissance ténébreuse qui existerait au même titre que la lumière. C'est pas cette puissance-là qui décide des choses. Augustin va se rendre compte que c'est en lui-même. Et donc le manichéisme ne répond plus à son attente de compréhension. Il y a un dignitaire manichéen qui va passer à Carthage, parce que pour fuir cette déprime, Augustin va aller à Carthage pour vivre dans le jeu, dans les distractions. Donc il y a vraiment ce mélange des deux, de se perdre, de s'étourdir dans les plaisirs, et en même temps de s'interroger d'une manière profonde et peut-être un peu déprimée. Et puis donc il y a ce Faustus qui va passer. Augustin va le voir, hein, pour essayer de comprendre ce qui se passe en lui, et Faustus, qui sait parler, qui sait développer sa pensée quand c'est lui qui décide des choses, eh bien, face aux interrogations impatientes d'Augustin, eh bien, Faustus, il n'a rien à répondre. Augustin, à ce moment-là, va se rendre compte à quel point le manichéisme est totalement fallacieux. Il va vraiment s'en rendre compte, il va vraiment l'assimiler. Et ça ne l'empêchera pas de continuer de côtoyer les cercles manichéens, de participer aux réunions et de faire appel à l'aide de manichéens importants quand il a besoin de lettres de recommandation.